Monsieur Bruno Gollnisch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député européen pour la France au Parlement européen de Strasbourg, pour le Front National. Et aujourd'hui, évidemment, je dépose quelques instants ma casquette de journaliste pour vous remercier de votre intervention contre Monsieur Cohn-Bendit au Parlement européen qui attaquait la Suisse sur des thèmes extrêmement durs. Voilà, je reprends ma casquette de journaliste et je vous pose la question de l'avenir de ce monsieur dans ce Parlement.
Daniel Cohn-Bendit a annoncé qu'il ne se représenterait pas et il va devenir chroniqueur de radio, ce qu'il a déjà été d'ailleurs, je suppose, avec un salaire confortable, tant mieux pour lui. Mais je trouve assez étonnant quand même qu'un homme qui s'est à peu près trompé sur tout apparaisse comme une espèce d'autorité morale un peu partout et, si mes informations sont bonnes, y compris dans votre pays, mais ce n'est pas le seul cas. J'entends beaucoup parler sur les chaînes de radio et de télévision, de personnalités qui sont présentées comme des politologues, comme des spécialistes du populisme, etc., qui sont en fait des militants, la plupart du temps d'ailleurs, des militants d'extrême gauche et que l'on présente comme des spécialistes, ce qui évidemment est de nature à fausser le débat. En l'occurrence, Daniel Cohn-Bendit n'est pas le seul à avoir été outrageant dans ce Parlement relativement à l'indépendance et à la souveraineté du peuple suisse. Beaucoup se sont comportés dans ce débat comme si la Suisse avait déclaré la guerre à l'Europe tout entière, ce qui est absolument dérisoire, odieux, grotesque. Le peuple suisse a pris une décision, décision d'ailleurs, si l'on veut bien se donner la peine de lire le texte qui a été adopté, qui est assez limité pour le moment dans son application, puisqu'elle se borne à dire que la question de l'accueil et du séjour des étrangers et des limites éventuelles à y apporter relèvera exclusivement de la compétence nationale suisse, ce qui, me semble-t-il, est le moindre des droits d'un État souverain.
Alors effectivement, on découvre avec une certaine surprise la position presque vexée de la Commission européenne sur le vote du 9 février dernier. Et il y a une chose qui, moi, m'a frappé à la lecture du procès-verbal de la séance du 26 février, c'était de voir que tous les députés européens, il y en a quand même quelques-uns, qui ont pris la défense de la Suisse, ont été coupés par le président de la session.
Ce Parlement n'est pas un Parlement où l'on parle véritablement. Les temps de parole sont ridiculement brefs. On y adopte en une semaine à Strasbourg plus de textes que je n'en adoptais en un an quand je siégeais au Parlement national de mon pays, à l'Assemblée nationale française. C'est une espèce de machine folle. Ces institutions ne cessent d'empiler des règlements. En même temps, d'ailleurs, et c'est là le grand paradoxe, que l'on ouvre les frontières à tous les flux de personnes, de marchandises et de capitaux venant du monde entier, pas seulement à l'intérieur de l'Europe, ce qui poserait déjà un certain nombre de problèmes compte tenu des disparités de niveau de vie, de protection sociale. Non, le dogme qui est un dogme quasi religieux, et on l'a bien vu lors de ce débat avec la Suisse, c'est la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux qui ne doit connaître aucun frein et qui doit être absolument totale. C'est-à-dire que si vous voulez commercer, libre circulation des marchandises, il faut accepter la libre circulation des personnes, c'est-à-dire l'implantation sur votre territoire d'étrangers dans une proportion que vous n'êtes plus maître de fixer. C'est très exactement une étape dans le projet mondialiste, pour faire simple, globaliste, diraient les anglo-saxons, qui n'est pas simplement la prise en compte de ce que les frontières du monde rétrécissent avec les moyens de communication, mais qui est un véritable projet politique de domination du monde par une caste qui ne veut pas tenir compte des différences d'identité, des peuples, des cultures, des nations, je dirais même des familles, des sexes, etc. En quelque sorte, ce qu'un philosophe a très justement appelé la dictature de l'indifférenciation. Et dans ce contexte, évidemment, la résistance du, passez-moi l'expression, du petit par l'effectif, petit peuple suisse, est perçu comme une espèce de blasphème, d'hérésie qui vient précisément troubler ce jeu, et dont les eurocrates redoutent d'ailleurs qu'il ne fasse école là dans les pays de l'Union européenne, ce qui sera certainement le cas.
Alors oui, justement, les derniers sondages concernant les votations européennes ont l'air de montrer une forte montée en puissance des eurosceptiques, comme on dit.
Oui, Il faudrait d'ailleurs s'entendre sur le terme d'eurosceptique. Un dirigeant politique européen ne peut pas être hostile à l'Europe en tant que réalité géographique, nous sommes en Europe, bien sûr, en tant que communauté de civilisation, même s'il existe des différences très profondes entre les cultures de chaque nation européenne, leur vécu, leur histoire, leurs goûts, leurs aspirations. Mais en réalité, moi je me considère comme un meilleur Européen que ce que j'appelle les eurocrates, car eux, ils veulent instaurer une espèce de super-État qui réglemente ou qui prétend réglementer tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, culturelle, on peut même dire sexuelle de 500 millions d'Européens. Et ce super-État est totalement contraire au génie de l'Europe. L'Europe, c'est l'invention de la diversité des nations, de leur égale dignité, de leur liberté. Et c'est une tradition que l'on ne trouve dans aucun autre domaine de civilisation. Vous ne trouvez pas cela en Extrême-Orient avec l'hégémonie de l'empereur de Chine, vous ne trouvez pas cela dans le monde musulman avec le mythe du califat, vous ne trouviez pas cela dans le monde communiste avec l'hégémonie du Comintern, etc., etc. Il n'y a qu'en Europe occidentale que l'on a inventé ce concept qui a fait école, j'en conviens, qui est celui de la liberté, de l'égalité des nations. Concept d'ailleurs auquel la Suisse a, au cours de son histoire, grandement participé. Eh bien, c'est cela que nous voudrions conserver.
Justement, ma question, c'est de savoir si les prochaines élections vont permettre tout simplement de sortir la Suisse d'affaires.
Je ne crois pas du tout, personnellement, qu'en dépit des cris d'orfraie qui sont poussés ça et là, la Suisse soit menacée. D'abord, des mesures de rétorsion et de représailles tout à fait mesquines qui sont annoncées, comme par exemple de suspendre le programme Erasmus entre étudiants, ça va davantage nuire aux étudiants européens, aux ressortissants de l'Union européenne, qu'aux étudiants suisses, qui eux ne peuvent simplement se promener à l'intérieur de leur pays pour acquérir des compétences d'un bilinguisme, d'un trilinguisme, d'un multilinguisme que leurs camarades des pays avoisinants leur envieraient. Par exemple, également l'Allemagne. L'Allemagne qui a renoncé à l'énergie nucléaire, eh bien, a besoin d'électricité. Alors, elle compte pour cela sur l'énergie nucléaire de la France, mais elle compte aussi pour cela sur l'hydroélectricité suisse. Par conséquent, je suis persuadé que l'Allemagne aurait beaucoup plus à perdre que la Suisse en suspendant les accords sur l'électricité. Et ainsi de suite, je crois qu'il va y avoir aux prochaines élections, en tout état de cause, une poussée des forces populaires, démocratiques, que nos adversaires, évidemment, appellent populistes, extrémistes, dont ils noircissent la couleur à longueur de journée sur les antennes de radio, de télévision ou dans la presse. Mais il va y avoir cette poussée très importante de la part de peuples qui comprennent que ce système euromondialiste travaille à l'enrichissement d'un tout petit nombre, à la paupérisation du plus grand nombre, à la destruction de leurs identités, à la destruction de leurs libertés, dans la mesure où ils sont gouvernés aujourd'hui par des gens qu'ils ne connaissent pas, sur lesquels ils n'ont pas de pouvoir de contrôle réel, et qu'ils ne peuvent pas choisir et qu'ils ne peuvent pas révoquer. Et dans ce contexte, l'exemple de la votation suisse, qui est un exemple de vraie démocratie, tout à fait remarquable. Je dois dire que je suis plein d'admiration. J'ai lu, par exemple, le document d'analyse du projet d'initiative par le Conseil fédéral. J'ai trouvé ça tout à fait remarquable. Certes, le Conseil fédéral est contre, mais il examine une à une toutes les conséquences qui résulteraient de l'adoption du texte. Évidemment, il se prononce contre, mais au moins les Suisses se sont prononcés en toute connaissance de cause. C'est tout à fait remarquable. Eh bien, je suis sûr que les peuples d'Europe qui n'ont pas la possibilité, et notamment en France, de recourir à cette votation d'initiative populaire que, personnellement, au Front National, nous appelons de nos voeux, eh bien, ils vont choisir l'unique moyen qui leur est donné, c'est-à-dire l'élection des députés européens, pour faire entendre leur voix. Et je crois que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en France, que ce soit en Europe centrale ou ailleurs, on voit très clairement un mouvement qui monte en puissance. C'est tout à fait heureux, c'est nécessaire et c'est urgent.
Alors, vous mentionnez la France, justement, vous avez des élections municipales dans quelques semaines, et il est éventuellement possible que le Front National parvienne à faire un petit peu le break, si je puis dire.
Oui, pour le moment, nous n'avons, à l'échelle de l'ensemble du pays, qu'une soixantaine d'élus dans les conseils municipaux, ce qui est dérisoire par rapport à l'importance de notre électorat. C'est que nous sommes plus récemment arrivés sur la scène politique que d'autres et que notre implantation au niveau local est encore embryonnaire. Elle s'est considérablement améliorée. On voit de plus en plus de personnes qui résistent aux pressions de toute nature, qui acceptent, permettez-moi l'expression, d'afficher la couleur et qui se présentent sous notre sigle. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a fixé comme objectif que nous passions de 60 élus municipaux à plus de 1000. Je pense que cet objectif sera non seulement atteint, mais très, très, très largement dépassé et même multiplié. Je crois aussi que nous aurons la possibilité de remporter un certain nombre de villes, ce qui est pour nous particulièrement difficile parce que nous nous battons en quelque sorte seuls contre tous et que nos adversaires, qu'ils soient socialo-communistes, libéraux, conservateurs, etc., se coalisent généralement entre les deux tours de l'élection. Vous savez qu'en France, les élections sont à deux tours pour nous faire battre, ce qui fait que nous sommes contraints, nous, de réunir la majorité des électeurs sur notre seule étiquette, ce qui est évidemment très difficile, mais je suis persuadé que nous y parviendrons dans un certain nombre de villes et ceci aura un effet extrêmement dynamique en vue des élections européennes qui interviennent un mois après.
Est-ce que vous pensez que le Front National va profiter, va bénéficier de l'influence de ces mouvements contestataires? On a vu la manif pour tous, jour de colère, il semblerait que le président Hollande réunisse beaucoup de monde contre lui. Est-ce que ça va profiter au Front National?
Oui, je le pense parce que ces mouvements sont tout à fait légitimes et ils n'ont pas d'organisation politique. Et par conséquent, je pense que la plupart de ceux qui ont participé à ces mouvements, j'ai moi-même participé à la manifestation en faveur de la défense du mariage traditionnel en tant qu'institution destinée à transmettre la vie et à élever les enfants. Je pense que la plupart des gens qui ont participé à ces manifestations trouveront une traduction politique de leur rejet de la politique de M. Hollande et de leurs espérances dans le vote Front National. Certains voteront autre chose. C'est tout à fait leur droit, mais je crois que cette manifestation populaire va assez dans notre sens.
Pour revenir, dernière question, pour revenir à Daniel Cohn-Bendit, est-ce que vous ne pensez pas finalement que son départ annoncé, que nous saluons évidemment, n'est pas la conséquence de la forte campagne que les médias allemands ont menée contre ces tirades pédophiles? Il peut plus se rendre à la moindre mise de prix maintenant sans être sifflé, sans être dénoncé par des militants anti-pédophilie. Est-ce que c'est pas ça finalement qui le pousse dehors?
Je ne crois pas parce que il a été élu allemand, mais il a été aussi élu français. Par conséquent, il aurait pu, je crois, poursuivre. Mais je pense que c'est un garçon qui a perçu aussi les limites de ce Parlement européen, qui encore une fois n'a de Parlement que le nom. Mais il y siège depuis très longtemps et il doit ressentir une certaine lassitude. Je ne vous cache pas que personnellement, c'est aussi mon cas. Je pense que ces institutions sont devenues absolument folles, que ce Parlement n'est pas véritablement l'objet de débat politique de fond, qu'il est totalement déconnecté des réalités et qu'il n'est malheureusement pas ce qu'il devrait être, c'est-à-dire la voix du bon sens populaire imposant à la bureaucratie européenne de modérer ses ambitions et la ramenant aux réalités. Au contraire, il y règne une espèce de messianisme d'un genre nouveau en faveur de ce mondialisme que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que pris dans cette dynamique de groupe, la majorité de cette institution participe à la destruction des nations européennes sans toutefois vouloir construire une nation supra-européenne, mais encore une fois en promouvant de façon quasi religieuse et en tout cas dogmatique le dogme de la circulation des personnes, des marchandises et des capitaux absolument sans entrave, dont on s'aperçoit aujourd'hui que si ces mouvements ne sont pas régulés, eh bien ils peuvent conduire à des catastrophes. Alors, je ne sais pas quelles sont exactement les motivations de Daniel Cohn-Bendit, il ne m'en a pas fait part, Ce que je peux dire simplement, c'est un garçon que j'ai eu à affronter de mon côté aussi pacifiquement que possible. D'ailleurs, depuis que je suis étudiant, parce que nous étions étudiants ensemble lors des événements de 67-68 à Nanterre, je déplorais déjà le désordre, le saccage des universités, l'arrêt brutal des cours, les violences contre les professeurs, le tumulte, la prétendue libération des mœurs qui a été en réalité une fête très triste, et le legs détestable de ce qu'on appelle l'esprit 68-art en France. Je l'ai combattu, il est devenu un notable du mainstream, du courant dominant. Bien maintenant, il va prendre une retraite dorée sur les ondes. Je trouve simplement que sa clairvoyance, c'est le moins que l'on puisse dire, ne mérite pas qu'il soit accueilli sur les radios ou les télévisions comme une espèce d'autorité morale, ce qu'il n'est pas.
Bruno Gollnisch, député européen français pour le Front National, nous vous remercions d'avoir répondu aux questions des observateurs.
Merci de votre aimable invitation.